Jean-François Mounet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le PDG de Genfit. On va parler avec vous de votre actualité. Elle est importante avec à la fois la publication de votre étude Golden 505 dans la Nash, donc effectivement votre spécialité. Il faut qu'on revienne ensemble d'abord hein, sur cette étude. Elle a été interprétée de différentes manières, plutôt négativement, on peut le dire en tout cas sur les marchés. Vous, le regard que vous portez, est-ce qu'elle est conforme à ce que vous aviez dit ici même il y a un an?
Je crois que le plus important, ce n'est pas seulement le regard que je porte ou mon équipe porte sur les résultats de cette étude, c'est le regard que portent les experts, qui ont d'ailleurs avec nous rédigé un communiqué de presse complexe, mais qui a été recomplexifié ensuite par d'autres intervenants. Mais je dirais que ce qui est important, c'est qu'eux considèrent que ces résultats vont de, selon les uns, à bon, à très très bon. Donc c'est ça qui est important. Ce qui est important, c'est que des gens qui font aujourd'hui l'opinion scientifique du plus haut niveau dans le domaine de la Nash, qui parle d'ailleurs avec tous les investisseurs et qui ne manqueront pas de continuer de parler avec eux, ce sont des gens qui parlent avec la FDA, qui sont proches de la FDA, ce sont les gens qui écrivent les guidelines, et bien que ces gens-là, dans leur immense majorité, mais tous ceux que j'ai rencontrés sont unanimes, considèrent que les résultats d'études sont bons, voire très bons. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Ça ne veut pas dire que l'évolution du cours de bourse ne j'y
Oui, parce que
attache pas
quand on perd
d'importance.
40%, on peut se dire il s'est passé quelque chose de
Bien
grave.
entendu, ça nous stresse, on doit le dire, mais en tous les cas, ce que je peux, j'ai l'assurance, moi, qu'à moyen terme, je ne parle pas de long terme, qu'à moyen terme, les choses reprendront un cours normal. Mais
Ça veut dire qu'il y a eu une mauvaise interprétation, puisque c'est vrai, quand on pouvait lire ce que vous avez écrit hein, dans le communiqué, on pouvait voir correction, on pouvait voir que, il y avait effectivement des modifications, des adaptations. Donc on pouvait se dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été changé par rapport à ce qui avait été prévu initialement?
ce qu'il faut d'abord dire, c'est qu'on a voulu communiquer les résultats tels qu'ils étaient, avec sincérité et dans leur entièreté. C'est-à-dire à la fois les résultats histologiques, et je vais revenir là-dessus, les résultats de protection cardio-métabolique qui n'ont besoin absolument d'aucun type d'ajustement pour être non seulement excellents, mais de toute façon presque étonnants, étant donné leur puissance. Et des résultats de sécurité, de safety, qui sont parfaits. Bon, à partir de ce moment-là, que s'est-il passé sur l'histologie? L'histologie, nous avons eu un groupe, d'ailleurs essentiellement situé aux États-Unis, où la réponse placebo pour les patients les moins atteints, on appelle ça les patients qui démarrent leur Nash, avec un score de Nash, de NASCOR de 3, je pense que les gens qui s'intéressent au dossier savent de quoi je parle, eh bien ces gens-là ont eu des taux de réponse placebo jusqu'à 60%. Il est bien évident, quand on a ça, on ne peut pas, ne pas, je dirais, avoir un impact sur l'ensemble de la statistique. Qu'est-ce qu'on a fait? On a tout simplement utilisé des modèles qui permettent de retrouver, face à cette hétérogénéité, de l'homogénéité. Ces modèles ont été d'ailleurs préalablement discutés avec la FDA. Ce sont des modèles connus. Ce ne sont pas des artifices pour obtenir n'importe quel résultat. Ce sont des modèles connus. Je m'en suis expliqué ce matin clairement dans une conférence de presse à Paris. Et dans une conférence qui a été faite avec des analystes vendredi dernier à New York, nos trois KOL sont intervenus 90% du temps de la conférence et ont dit qu'ils étaient terriblement étonnés du mauvais accueil. Ils ont répété ô combien ces résultats leur paraissaient satisfaisants. Ce matin, j'ai essayé de donner quelques éléments de clarté, on va dire pas pour le grand public, mais pour les gens qui s'intéressent véritablement à ces résultats. Qui consiste à dire quoi? On a montré qu'il y avait deux cas, par exemple, d'hétérogénéité, et on a donné les exemples. D'une part, quand vous avez des centres qui n'ont qu'un patient, voire deux patients, et dont les patients n'ont pas une dose placebo, une dose 80 mg, une dose 120 mg. Tout le monde sait que c'est une forme de déséquilibre statistique, que d'ailleurs la FDA, parfois parce que ça améliore trop les résultats, bon, nous ça n'a pas été le cas, demande de rectifier. Eh bien, simplement en enlevant ces quelques centres, en gardant près de 140 patients, l'étude sort toute seule, sans problème.
Donc pour
Un
vous, il y
autre
a une
exemple,
interprétation qui est
bien
démesurée
sûr, je donne un second exemple et je vous dirai comment je qualifie effectivement cette interprétation. Un deuxième exemple, si vous prenez l'Europe, presque 150 patients, sans toucher à rien, mais c'est un modèle, l'Europe représente, on va dire, un ensemble assez homogène. Les mêmes pratiques, la même ethnie, ça joue, hein, on le verra. On se retrouve avec effectivement l'étude qui sort toute seule sur les résultats, le critère principal. Si je reprends enfin la comparaison avec OCA, Intercept, hein, si je prends les NAS égaux et supérieurs à 4, c'est-à-dire la population qu'ils ont recrutée et celle qu'effectivement tout le monde considère aujourd'hui devoir être traitée. Donc je compare des choses égales par ailleurs. Nous sommes en tout point égaux ou supérieurs dans le primary endpoint, dans le secondary endpoint, dans le primaire principal et les critères secondaires. Mais mieux que ça, nous avons une protection cardiovasculaire qu'ils n'ont pas, ils empirent le score cardiovasculaire et ils ont une safety qui laisse beaucoup à désirer, pardon. La nôtre est impeccable. Donc je ne vois pas en quoi l'ensemble de ces éléments puissent créer des inquiétudes durables, ni parmi mes actionnaires individuels, ni parmi les analystes, parce que d'ores et déjà, pour ce qui est des spécialistes, des médecins, de l'ensemble, je dirais, de la communauté, ils considèrent qu'ils ont là un médicament qui va traiter leurs patients.
Alors ça, c'est pour effectivement cette étude qui a donc suscité beaucoup de commentaires. On a pu aussi lire que vous étiez ouvert à des direct toutes les beaucoup d'entreprises regardaient Genfit. Donc ça, c'est le côté spéculatif OPA potentiel. Vous dites finalement, vous êtes obligé parce que finalement depuis le 1er janvier, tout le monde s'intéresse à Genfit. Tout le monde, entre guillemets, beaucoup de gens, beaucoup d'entreprises.
Là, j'ai l'impression qu'on me pose une question, pas vous, hein, mais d'une banalité déconcertante. Vous êtes une entreprise de biotech. Vous avez une phase 3 qui coûte un certain prix. Nous avons 75 millions en caisse. Une phase 3, ça coûte plus cher. Qu'est-ce que va vous répondre un patron normal d'une boîte de biotech? Il va vous répondre qu'il faudra financer cette phase 3. Qu'est-ce qu'il répond aujourd'hui? C'est qu'il y a plusieurs possibilités. D'une part, il y a des investisseurs qui vont être très intéressés de continuer. Et nous le savons, il y en a déjà qui nous le disent. D'autre part, il y a une possibilité d'avoir un partenaire pharmaceutique pour développer ensemble le produit vers la phase 3 et s'en partager ensuite les résultats. Et puis, il y a une possibilité que je ne peux pas ignorer, sinon je serai une autruche avec la tête dans le sable, c'est que des gens peuvent effectivement nous faire une proposition en disant, c'est peut-être pas une mauvaise idée de racheter Genfit parce que non, c'est peut-être moins cher que de devoir payer le médicament. Qu'est-ce que je réponds? Je réponds aujourd'hui que, en homme raisonnable, nous étudions toutes les possibilités. Que voulez-vous qu'on suppute après ça? Il n'y a rien, si ce n'est la réponse d'un patron normal d'une boîte de biotech normale,
Il y aurait
qui
une réponse,
entame
oui.
sa phase 3.
Ça veut dire qu'il y aurait une réponse quand même, il y aurait une réponse à un moment donné. On sait bien
Bien
que au mois de
entendu, ça veut
juin,
dire
il y
quoi?
a. Oui.
Ça veut dire que 2015,
Oui.
eh bien, se met en place la phase 3, donc se mettra en place également les
Ah.
moyens de financer cette phase 3. Vous m'auriez posé cette question il y a un mois, alors que je n'avais pas la moindre information sur le résultat, je vous aurais répondu ça. Si vous me posez la question dans un mois, probablement je vous réponds ça. Mais entre-temps, c'est vrai, je ne peux pas nier qu'on a des discussions. On ne les avait pas avant les résultats, parce qu'on avait souhaité faire une sorte de cool-off période, de pas discuter. Et on a fait ça entre JP Morgan en janvier et les résultats. Mais désormais, oui, notre agenda est couvert de rendez-vous avec des investisseurs et notre agenda est couvert de rendez-vous avec des pharmas.
Autre sujet, c'est l'augmentation de capital, on pourrait dire une nouvelle augmentation de capital. Effectivement, on parle de 200 millions d'euros, de dollars, pardon. Ça veut dire aussi que Genfit potentiellement a plus un intérêt à se faire coter sur le Nasdaq pour aller lever ses fonds.
Alors, je répondrai pour dollars et euros,
Oui.
malheureusement ou heureusement d'ailleurs,
Oui.
c'est à peu près pareil. Je crois que d'abord, il faut considérer que lever ces 200 millions ne veut pas dire les lever en une fois. Ça ne veut surtout pas dire, alors là les interprétations sont terriblement abruptes, ça ne veut pas dire les lever quand notre valo est celle d'aujourd'hui. La valo va continuer de progresser et on lèvera quand l'effet dilutif sera le moins mauvais possible et au moment où on en a besoin.
Donc c'est une précision importante.
Bien sûr, et c'est important, et on n'en a pas besoin. Je ne dois pas faire un chèque à quelqu'un de 200 millions en disant maintenant on fait la phase 3. Les 200 millions, je vais les dépenser dans les 4 années qui viennent. La phase 3 sera déjà terminée, mais vous continuez de payer. Et donc, on se retrouve avec cette possibilité de lever des fonds. Il est vrai que sur le Nasdaq, c'est une des hypothèses qu'on avait déjà évoquées. Pourquoi pas? Mais là encore, C'est absolument quelque chose qui n'est pas nouveau. On a une valorisation aujourd'hui qui n'est pas celle sur laquelle j'ai forcément envie d'appuyer une levée de fonds de 200 millions, évidemment. Et je n'ai pas besoin de 200 millions tout de suite.
Mot de la fin, peut-être en un mot pour tous les actionnaires, alors les individuels, ceux qui suivent hein, au quotidien, qui sont en train d'essayer d'interpréter tout ce qui s'est dit, on a fait le point ensemble. Vous pensez les rassurer aujourd'hui?
Mais je suis certain que ceux qui se penchent correctement sur presque aussi le premier press release, mais ceux qui se penchent correctement sur les verbatims qu'on suivit, qui se penchent correctement sur la conférence qu'on a fait ce matin auprès des analystes et gérants, qui se penchent sur ce que je viens de dire. Évidemment, je pense que la probabilité que la phase 3 démarre sur le 505 après un accord de l'AFDA est très élevée de mon point de vue. Je serai peut-être le premier à investir dans Genfit, je le crois même.
Eh bien, on suivra ça. Merci Jean-François Monnet d'avoir fait le point
Je
avec nous aujourd'hui.
vous en prie.